Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invité, l'humoriste Jonathan Lambert pour son nouveau spectacle Rodolphe. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Et puis lui aussi sera avec des célébrités et Marc-Antoine Lebray pour clore l'émission. Bonjour Caroline Speller.
Bonjour Philippe.
Bonjour Héloïse Gouard.
Bonjour Philippe.
Et bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici le style et les écritures médiatiques. Et hier soir, au moment où vous apprêtiez à rédiger une chronique pour évoquer des reportages toujours plus bavards, vous êtes tombé sur un documentaire totalement dépourvu de commentaires.
Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre deux grands genres cathodiques que tout oppose. Ça ne vous a probablement pas échappé. La télévision adore nous proposer des émissions dans lesquelles une caméra se colle littéralement à une équipe de gendarmes.
Les forces de l'ordre ne sont pas en vacances.
Pendant qu'une voix off totalement inarrêtable souligne tout, absolument tout, ce que les images nous montrent pourtant déjà.
Alors Benjamin n'a pas d'autre choix que d'exploser la vitre du conducteur avec sa matraque télescopique.
J'en ai vu une splendide lundi dernier dans laquelle, lorsqu'un gendarme arrête un automobiliste pour lui demander s'il a picolé et que le type lui répond oui en précisant dans quelle proportion...
Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ?
3 litres.
3 litres, rien que ça. La voix off se croit obligée d'ajouter...
Les gendarmes sont persuadés que l'automobiliste qui a tenté de fuir le contrôle... est totalement ivre.
Voilà, on s'en serait pas douté, merci. Et ça, Philippe, comme on dit dans le métier, avec le petit ton qui va bien...
Ce n'est que le début d'une soirée surréaliste.
Alors, vous l'avez dit en préambule, je m'apprêtais donc à vous faire partager toutes ces merveilles pour oreilles délicates lorsque je suis tombé sur ça.
Bonjour.
Un documentaire sans le moindre commentaire. Pas silencieux, non. Mieux que ça, tourné tout en séquence avec des vrais morceaux d'ambiance dedans.
Allô Romain ?
Ouais, Steve, tu m'entends ?
Ouais, je t'entends.
Ça s'est passé hier soir dans la case infrarouge de France 2. Ce reportage intitulé « Défendre » brossait le portrait d'un avocat, Steve Ruben, et de ses associés. Magnifique exercice de style qui, en se contentant de montrer les échanges entre cet avocat et ses clients, permettait de comprendre de façon infiniment subtile à la fois le fonctionnement de la justice et la passion d'un homme pour son métier.
Comparer votre tribunal, c'est pas un exercice de vérité. Tu comprends ce que ça veut dire ou pas ? C'est pas un confessionnal, un tribunal. T'es pas là pour dire la vérité.
Je vous ai sélectionné un court extrait, Philippe. À l'image, on voit un tout jeune homme dont le procès aux assises va se tenir le lendemain. Il est accusé d'homicide involontaire et son avocat lui donne sa définition toute personnelle de ce qu'est la vérité.
T'es là pour prendre la vérité, voir où est-ce qu'elle est, et puis, non pas t'en arranger, mais présenter les choses sous un angle meilleur pour toi.
En trois plans et deux phrases, on saisit parfaitement la roublardise de l'avocat, mais également son côté incroyablement chaleureux et empathique avec des justiciables souvent trop peu armés pour affronter ce qui les attend au tribunal.
Tu peux avoir dit blanc et puis dire à l'audience, en fait c'était blanc cassé.
Tout ça pendant 65 minutes et je le répète, sans le plus petit mot de commentaire. Ici, tout est donc suggéré, montré, en misant simplement sur l'intelligence de celui qui regarde et pas en lui braillant dans les oreilles que quand on entend ça... Eh bien, c'est parce que, même en été...
Les forces de l'ordre ne sont pas en vacances.
Alors, vous vous souvenez peut-être qu'il n'y a pas si longtemps, un magazine tout entier s'était spécialisé dans l'art délicat de proposer des reportages sans commentaires. Il s'appelait Striptease, il était diffusé sur France 3. Eh bien, je milite activement pour qu'on s'inspire très largement de ce style d'écriture. Sinon, je vous remets les pimpons tous les jours.
Merci beaucoup Bruno Donnet, vous non plus vous n'êtes pas en vacances. Caroline Speller, votre indispensable du jour sera aux alentours de 10h30.
Tout à fait, alors aujourd'hui on va parler d'histoire mais en jeu vidéo, plus précisément à l'ère viking avec un jeu qui a été adapté d'Ubisoft, c'est Discovery Tour Viking Age.
Héloïse Gouard, c'est la même question, votre indispensable.
Alors aujourd'hui je vous parle d'une comédie réjouissante avec un casting 5 étoiles à l'affiche Josiane Balasco, Philippe Catherine ou encore Anaïs Desmoustiers.
Le film s'appelle
La pièce rapportée.
Valérie Donzelli m'a dit qu'elle l'avait vu et que c'était absolument formidable. Dans un instant, Jonathan Lambert, on va parler de son nouveau spectacle Rodolphe. Mais d'abord, musique, c'est Juliette Armanet sur Europe 1.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. lâche pas la main, c'est la fin. Le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin.
Le dernier jour du disco, c'était Juliette Armanet sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Jonathan Lambert.
Bonjour.
Content de vous retrouver ici. Comédien, on avait longtemps vu vos personnages déjanter le samedi soir chez Ruquier dans N'est pas couché et vos one-man show Perruque ou Looking for Kim autour des dictateurs. On vous a vu dans des films, dans des séries OVNI et votre rôle excellent, j'en parle parce qu'on avait reçu la réalisatrice il y a quelques temps dans Jeune et Gaulerie. Votre nouveau spectacle s'appelle Rodolphe. C'est à la Piccola Scala à Paris. C'est les jeudis, vendredis, samedi à 19h30. Si vous n'avez pas le temps de noter, vous inquiétez pas, je le redirai à la fin de l'émission. Votre spectacle, il est signé R. Jonathan Lambert. Tout est là, expliqué.
Donc,
il commence par donc.
Voilà, parce que ça veut dire que ça va être long.
Ouais. Non, mais c'est passionnant en vrai.
Non, c'est enfin passionnant, je sais pas. Il se trouve que mon père voulait m'appeler Rodolphe, ma mère Jonathan. Ils n'ont pas réussi à tomber d'accord. Donc, j'ai eu ce prénom composé qui est Rodolphe Jonathan, que je n'ai jamais en fait assumé, enfin, que je n'ai jamais porté en vérité. Je me suis appelé Jonathan depuis toujours parce que mon père s'appelait déjà Rodolphe. Donc, c'était un peu compliqué à la maison d'avoir de Rodolphe. Alors, ouais. Il aurait fallu que ce soit Rodolphe Junior. Donc toujours disait-il que j'ai grandi en me faisant appeler Jonathan, même par mon père. Hein. Mais quand mon père est parti, il y a de ça bientôt 3 ans, J'ai voulu récupérer, recouvrer, assumer ce prénom qui était une sorte de legs de sa part. Et c'était une façon de le prolonger lui et de le faire vivre encore.
Donc il y a un R et un point.
Donc il y a un R et un point depuis cette date, depuis maintenant près de 3 ans. J'ai demandé à être crédité. Je ne voulais pas changer de prénom non plus parce que c'était déroutant de changer presque d'identité. Mais je voulais au moins sur les affiches. Ça s'est fait. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que ça a commencé avec la pièce Le prénom. Non, que oui. J'ai joué. Donc ouais, c'était vraiment un concours de circonstances. Et à partir de cette pièce-là, comme ça coïncidait avec la disparition de mon père, j'ai dit j'aimerais qu'on ajoute un petit R avant Jonathan, mais même tout petit, plus petit que Jonathan, même minuscule. Mais c'est pour moi, c'est important. C'est voilà, comme quand on dit le roi est mort, vive le roi. Bah, j'ai voulu faire la même chose avec Rodolphe. Et donc depuis lors, il y a ce R. Jonathan.
Il y a quoi sur votre carte d'identité?
Rodolphe-Jonathan. Ah oui, non, c'est mon prénom à l'état civil. Ouais.
Et comment ça se passait d'avoir le même prénom que son papa?
Bah, en vérité, ça ne se passait pas, puisque personne ne s'en rendait compte, dans la mesure où ça a été simplement un acte, je dirais, notarié, enfin, enregistré à la mairie et à la préfecture. Mais sinon, on ne m'a jamais appelé Rodolphe.
Vous savez comment Salvador Dali est devenu fou? Ce qu'il raconte lui-même, vous savez
pas. Il est devenu fou. Ah si, je sais qu'il a perdu son frère jumeau.
C'est plus compliqué que ça.
C'est ça, hein.
Il avait un frère,
c'est ça,
qui est mort pendant que sa maman attendait Salvador. Or, le frère s'appelait Salvador.
Voilà,
et le frère était très aimé par les parents. Et donc, chaque fois que Dali faisait une connerie, il disait « Tu sais, Salvador, il faisait pas ça. » Et donc, il était lui-même et un autre. Il était à la fois un vivant et un mort. Et il dit que c'est ça qui l'a rendu totalement schizophrène et complètement dingo. Et voilà pourquoi je m'inquiétais de votre santé.
Très surréaliste.
Voilà, et je m'inquiétais de votre santé mentale au-delà de la blague.
Écoutez, tout important est un malade qui s'ignore.
C'est joliment dit. Votre papa a disparu en 2018. Est-ce que vous avez attendu cette date pour écrire ce spectacle? Parce que ce qu'il faut raconter, c'est que dans le spectacle, vous racontez.
Oui, je parle de moi, je parle de ma famille. C'est un peu d'ailleurs une déclaration d'amour à mon entourage, à ceux qui ont toujours été là. Donc en premier lieu, ma famille, mes enfants qui sont venus par la suite. Et puis je parle aussi d'eux, mais également de moi. Hein. Je me moque beaucoup de moi. Il y a beaucoup d'autodérision. Et puis ce que j'ai voulu, c'est raconter dans la vie qu'on a tous. Il y a toujours des moments difficiles, des épreuves. Et c'était de trouver l'angle pour que ce soit risible et que ce soit, oui, comique. C'est avant tout l'idée de ce spectacle, c'est pour faire rire.
Des histoires terribles, vous êtes au chevet de votre père qui est en train de mourir, donc par définition, et il y a la question du parking.
C'est un peu dans l'idée d'un personnage, parce que j'essaie toujours finalement de jouer un petit peu un mec un peu crevard, un peu. Et je racontais, non, c'est quand dans le cycle de la vie, il y a un moment donné où les enfants deviennent les parents. Et moi, je le vis parce que mon fils est plus grand que moi aujourd'hui et parfois il m'accompagne presque pour faire des courses parce qu'il m'arrive de m'habiller au rayon enfant.
Ouais.
Donc c'est lui qui m'accompagne pour m'aider à choisir. Et du coup, mon père, j'ai vécu aussi cette espèce de basculement de situation où moi je me retrouvais à lui, effectivement, des moments qui étaient très tendres, très touchants, où pour passer le temps, parce qu'il est resté longtemps à l'hôpital, je lui lisais des histoires et il ne voulait pas que j'arrête, comme quand je lisais des contes ou des histoires à mes enfants pour les endormir, sauf qu'à l'hôpital, je lisais vite parce que le parking est payant et donc les tranches de quart d'heure à 60 centimes, je les sentais passer.
Pardon de rire, Jonathan Lambert.
Mais voilà, c'est aussi l'héritage de mon père, c'était de trouver dans les situations parfois difficiles, de trouver le côté risible de ces moments-là pour en rire. Ouais.
Voilà, et par là, l'humanité de ces moments-là.
Surtout,
vous parliez de votre enfance, on va justement revenir sur ce qui est arrivé dans votre vie avant d'être connu. C'est le portrait pré-fame de notre invitée, Lisa Marie Marquez. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média, nous sommes en compagnie de l'humoriste et comédien Jonathan Lambert. On parle de son spectacle Rodolphe et on va mieux vous connaître, Rodolphe Jonathan, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Là aussi, c'est un prénom composé. Le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Jonathan Lambert.
Bonjour.
Vous êtes le roi de la métamorphose, vous êtes capable de faire rire des pires horreurs des dictateurs, de jouer César et tous les personnages les plus hystériques, avec ou sans perruque. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Rodolphe Jonathan Lambert, vous êtes né à Paris, c'est là que vous avez grandi. Vos parents sont divorcés, vous vivez avec votre maman et votre sœur. Et déjà enfant, vous aimez faire rire les copains à l'école, mais sans jamais faire de vagues. Pour vous, il n'est pas question de redoubler. Pour vous amuser et parce que vous trouvez l'exercice de la photo de classe pas très passionnant, vous vous déguisez ou du moins vous vous grimez. Une raie sur le côté, de grosses lunettes, un pull trop petit, le pantalon remonté jusqu'au torse. Vous faites tout pour gâcher la photo de classe et surtout pour amuser la galerie.
J'adore. Vous avez encore les photos de classe ?
Je crois même qu'il y en a une qui est visible sur Google, mais je précise, mes parents n'étaient pas divorcés mais séparés. C'est important, hein,
oui.
parce qu'ils sont restés en fait très très proches toujours. Donc voilà, c'est juste une petite correction.
Une petite précision, voilà. Vous faites bien.
Lisa Marie.
Les déguisements, toujours, il vous arrive d'en revêtir pour aller promener le chien avec les copains. Oui. Ce que vous aimez par-dessus tout, c'est voir la réaction des passants. Est-ce qu'ils rigolent ou est-ce qu'ils ont peur ?
Alors, Lisa Marie, déjà, ils rigolent. Jonathan rigole dans le studio. Non, vous ne vous déguisez pas pour aller promener le chien. Si.
Non, mais pas. D'abord, c'était avant.
Ouais.
Je n'ai plus de chien. Ouais. Mais quand j'avais un chien, oui, ça m'amusait quand j'avais 15-16 ans. Le soir, j'allais promener et parfois, je me déguisais, je mettais des accoutrements un peu bizarres et j'aimais bien, en fait, voir ce que ça suscitait chez les autres, comme mon regard. Ouais, c'était... Je ne le fais plus. Hein.
Ça se soigne. Hein. Lisa Marie.
Jonathan Lambert, vos parents vous amènent voir des spectacles et comme ils ont des goûts très éclectiques, vous découvrez Raymond Devos, Farid Chopel, Django Edwards et Coluche. C'est en les voyant sur scène qu'est née votre envie d'y aller vous aussi. Mais d'abord, vous regardez de loin le show business. La première fois que vous vous faites signer un autographe, c'est à Deauville. Le plagiste vient vous chercher avec les autres enfants et vous envoie vers un monsieur. Il vous dit qu'il est connu et vous ramenez à vos parents un autographe de Jacques Chazot.
Incroyable. Il faut dire aux plus jeunes qui était Jacques Chazot.
Même aux plus vieux.
Ouais. Ouais, parce que même les plus vieux, il y en a qui ne l'ont pas connu.
Jacques Chazot. Je ne sais pas. C'est le seul jour où j'ai été amené à le rencontrer et à savoir à peu près qui c'était. Je crois que c'était un danseur,
oui.
Un grand danseur, mais des années 50 peut-être,
voilà.
Je ne sais pas.
Et c'est une espèce de mondain qui était une
voilà,
figure du tout
un
Paris.
Mondain, et effectivement, un jour, il était à Deauville sur la plage, sur les planches, et je pense que comme ça manquait un petit peu de paillettes autour de lui, gentiment, le serveur avait dit je vais vous ramener un peu de cohue pour que ça fasse, ou je ne sais pas, c'était pour le faire mousser. Quoi.
Pour le flatter.
Il a été chercher quelques enfants sur la plage, et il leur a dit allez demander un autographe au type là-bas, et j'y vais sans savoir qui est, c'est en revenant vers mes parents, j'ai dit regardez, papa, maman, j'ai un autographe de Jacques Chazot. Donc ils se sont regardés en se disant d'où il connaît Jacques Chazot, quoi. Son âge était totalement improbable.
Lisa Marie.
Jonathan Lambert, vous écoutez de la musique. Là aussi, c'est éclectique. D'abord, Randy Newman que vous fait découvrir votre papa.
Short people. C'est bien pour nous,
ouais.
Philippe et moi.
Oui, ça, parce que vous estimez que je ne suis pas très grand.
Bah,
et vous n'avez pas tort.
Qu'on est à peu près de la même taille,
ouais,
tous les deux.
Près. Mais moi, ça, je ne m'habille pas au rayon enfant. Je ne savais pas que vous vous habillez au rayon enfant. C'est une blague,
c'est moins cher.
Non, mais
si.
Arrêtez, mais vous plaisantez, je ne vous crois pas.
Mais si, je vous assure, j'ai des trucs, je pourrais vous montrer, j'ai des trucs en 16 ans. Il y a des tailles, les tailles américaines notamment, ils font même du XL enfant, c'est même trop grand pour moi.
Alors, il y en a un qui a des costumes trop grands aussi, c'est David Bowie, Lisa Marie.
Et oui, vous écoutez David Bowie, vous l'écoutez et vous le regardez. On écoute Modern Love. Et toute autre chose, vous écoutez aussi Cameo. C'est d'ailleurs le premier CD que vous achetez avec votre argent de poche. On écoute un extrait du titre Words Up. Jonathan Lambert, après le bac que vous obtenez avec 10,02 de moyenne,
Wow. Vous
étudiez la communication et la culture option cinéma. Et là, vous décidez de passer un casting pour voir ce que ça fait. C'est le premier de votre vie et vous êtes choisi. Vous vous retrouvez à co-animer l'émission C'est tout Coff aux côtés de Jean-Pierre Coff. On écoute un extrait.
Bon Jean-Pierre, c'est quoi le menu du jour ?
Tu sais qu'on reconnaît un homme de qualité à ses chaussures. Alors on va voir si les cordonniers sont bien chaussés.
Et sans oublier le dossier du jour, le stress fait-il grossir ? Pour moi, ça va, mais pour vous Jean-Pierre, j'en dirais pas autant.
Oui, enfin, moi mon stress, c'est la soupe à la lentille que je vais vous présenter tout à l'heure. Bon, avec ça que je vais retrouver ma silhouette de jeune premier.
Et j'ai resté, ce que je viens de regarder, vous avez toujours des belles chaussures.
Ouais, j'en parle dans le spectacle d'ailleurs, c'est vrai que c'est un de mes petits péchés. Ouais, bravo, Cameo, c'est vrai, oh là là, ça m'a... Cameo, ce groupe incroyable, mythique des années 80, début 90.
Je vous laisse pas parler de Cameo parce qu'il faut rendre l'antenne à 11h, à Julia Vignali et Mélanie Gomez. Lisa Marie.
En parallèle, vous vous formez au métier de comédien, une année au conservatoire du 10e arrondissement, le cours Florent. La scène vous attire, mais vous n'osez pas encore le dire, pas tout de suite. Après votre expérience avec Jean-Pierre Coff, vous devenez assistant de production avant de travailler pour Exclusif sur TF1, l'émission de Paris à Hollywood qui raconte toute l'actualité des stars. Puis vous intégrez la grosse émission sur Comédie, où vous côtoyez Cadet Olivier et où vous créez vos premiers personnages. D'ailleurs, vous imaginez un personnage loufoque qui commence toujours son dessin par une quéquette. Et vous avez toujours sur vous un bloc-notes avec beaucoup de dessins de ce genre-là. Et un jour, à l'aéroport, en partant au Maroc, le douanier a jeté un coup d'œil à ce carnet plein de quéquettes, et vous êtes passé pour un fou.
Là aussi, c'est authentique.
Ouais, vous savez, de temps en temps, on regarde un peu. Puis il y avait ce carnet qui est un carnet de brouillon que j'avais toujours sur moi, où j'essayais de démarrer d'une quéquette pour faire un parce que c'était Gribouille. J'avais fait une parodie de Gribouille, qui était un personnage qui existait dans Casimir. Et il y avait ce personnage qui, à chaque fois, partait d'une quéquette et qui faisait finalement le dessin qui était demandé par la voix off, donc qui un papillon, une vache ou quoi. Et j'avais ce carnet sur moi. Et
il l'a pas gardé.
Non, parce que si vous voulez, on pouvait pas présumer de quelque chose de. Mais ça laissait quand même entendre que le gars qui était l'auteur de ces dessins avait un petit problème.
Lisa Marie.
À la télévision et à la radio, vous faites vos armes aux côtés de Frédéric Becbédé et de Arthur. L'animateur Arthur, à l'époque où vous l'écoutez sur Europe 1, vous participez un jour à un jeu à la radio. Vous gagnez un magnétoscope que vous revendez pour vous acheter une caméra qui va vous servir à filmer vos premiers sketchs.
Bon, c'est incroyable,
ouais,
ça.
Ouais, ça c'est assez marrant. Ouais.
Et vous avez encore les vidéos ?
J'ai plus les vidéos. Peut-être je vais avoir une cassette rangée quelque part, mais c'est vrai que ces premiers sketchs, c'était assez drôle. C'est la caméra que j'ai gagnée en écoutant Arthur et les Pirates. C'était sur, je sais plus sur quelle station c'était.
Arthur et les Pirates, c'était sur Europe.
C'était sur Europe.
Ça, je suis certain. C'était ces émissions, c'était sur Europe.
Ouais, c'est ça. Alors, incroyable.
Avec les débuts de Manu Lévy, si je me souviens bien. Ouais, Lisa Marie.
Jonathan Lambert, en 2007, Laurent Ruquier cherche un ou une humoriste pour succéder à Florence Foresti. Vous proposez le concept des copains d'avant de l'invité qui vont torturer les zygomatiques de millions de téléspectateurs le samedi soir devant On n'est pas couché. Et à l'inverse de nombreux humoristes, c'est après la télévision que vous montez enfin, j'ai envie de dire, sur scène pour votre premier spectacle, L'homme qui ne dort jamais. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup, Lisa Marie. Merci pour cette plongée dans votre enfance que vous connaissez et que vous racontez aussi dans ce spectacle.
Ouais.
Rodolphe.
Ah ouais, il y a un peu de mon enfance, même pas mal, beaucoup.
Vous êtes un gamer, vous jouez aux jeux vidéo ?
Très peu. Enfin, je me suis arrêté à Pac-Man, je veux dire.
Moi-même avant. Dans un instant, on va parler de jeux vidéo tout à l'heure et puis on va parler d'une comédie conseillée par Élise Goua. Ça s'appelle La pièce rapportée. Il paraît que c'est absolument formidable. Il est formidable. Il s'appelle Jonathan Lambert. Il s'appelle aussi Rodolphe. Il est avec nous. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jonathan Lambert, que je vais citer, il dit « J'ai le même prénom que Jonathan Daval et le même nom de famille que Vincent Lambert. Autant dire que c'est pas un combo qui porte la win. C'est de vous.
Ouais, bah c'est vrai. Hein. Dernièrement, voilà, c'était pas les meilleurs représentants.
Lisa Marie Marquez racontait vos débuts à la télé, chez Ruquier notamment. C'était pas tout à fait des débuts, vous étiez déjà bien installé. Il y a encore des gens qui vous crient « baiser, baiser » dans la rue,
oui,
qui vous courent après.
Enfin, comme... Non, ils ne courent pas après.
Mais... Comment ? Non, parce qu'ils courent après tout le monde, votre personnage. Il s'appelait Damien, c'était un détraqué sexuel qui courait après tout le monde. Et on le tenait avec une corde, autant que je me souvienne.
Je ne sais pas si c'était un détraqué, c'était un trop-plein d'amour.
Mais il y a des gens qui vous en font la remarque.
Oui, si vous voulez, c'est un peu mon tube. Vous voyez, c'est ce qui a marqué les esprits. C'est une séquence qui a été vue et revue grâce, évidemment, au net. Donc, c'est le truc que je porte, non pas comme une croix, hein, je l'assume. Mais c'est bien aussi de se remettre en cause, de changer. Et vous savez, j'ai passé 4 années merveilleuses avec Laurent. C'est ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de visibilité, de faire ce que j'avais envie, parce que j'avais une totale liberté. Mais j'ai voulu arrêter pour ne pas faire l'année trop. Et je trouve que c'est bien de se remettre un petit peu en jeu.
Vous dites que ce n'est pas une croix qu'on porte, sauf c'est une croix si vous êtes avec vos enfants en bas âge.
Alors, ils ne sont plus en bas âge.
Mais quand ils l'étaient.
Ah ben oui, quand ils l'étaient, oui. J'avais pas spécialement envie que des gens m'approchent dans la rue et qu'on dise à ma fille ou à mon fils « Alors, comment il va, Damien Baiser ?» Ou qu'on me crie « Baiser, baiser ».
C'est arrivé ?
Non, là, les gens sont assez respectueux.
Et on vous propose quoi comme rôle maintenant ? Des rôles toujours complètement déjantés ou au contraire, comme vous, si j'ose dire, ça s'agit et ça s'approfondit.
Oui, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'effectivement, au moment de quand je travaillais dans On n'est pas couché, je recevais pas mal de propositions de pièces ou de fiction qui étaient, c'était toujours des personnages très très outranciers. C'était des pas loin du burlesque, bon, ce que j'aime beaucoup, mais il y avait un moment donné où ça tournait un peu en rond, il y avait toujours du transformisme. Et là, depuis 2-3 ans, je suis heureux parce que c'est ce que je disais, on a envie de se renouveler, passé un certain âge, on ne va pas faire. De toute façon, je ne peux plus faire baiser, baver, ouais. Être attaché au bout d'une corde. Hein.
Ouais, je me souviens plus. Très bien. Antoine Decaune m'avait dit un jour, je ne vais pas me casser des œufs sur la tête jusqu'à la fin de mes jours, et je me souviens très bien de cette chose-là. Il faut passer à d'autres choses.
Exactement. Mieux vous faire envie que pitié.
Ouais. Héloïse Goy, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour Jonathan Lambert.
On s'est parlé rapidement tout à l'heure, on va parler cinéma avec vous, une comédie qui vient de sortir. C'est sorti hier, ça s'appelle La pièce rapportée.
Oui, c'est une comédie signée Antonin Perez-Chatko. Vous le connaissez peut-être, il avait réalisé le film notamment La loi de la jungle.
La fille du 14 juillet.
Exactement.
Ça, je l'adorais.
Alors bon, je dis que ce film, c'est une comédie, mais c'est aussi un vaudeville. Hein. Quand on regarde le film, on a presque l'impression d'être au théâtre. Les rebondissements s'enchaînent à toute vitesse. Et franchement, on rit du début à la fin.
On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que ça raconte, ce film ?
Eh bien, on fait d'abord connaissance avec Paul Château-Tétard, qui est joué par l'inimitable Philippe Catherine. Paul, c'est un vieux garçon de 45 ans qui vit encore avec sa mère dans le 16e arrondissement de Paris. C'est une famille très riche. La mère, c'est Adélaïde Château-Tétard. Elle est incarnée par Josiane Balasko. Et ce personnage, vous allez voir, il m'a un petit peu fait penser à la charmante Tati Daniel d'Étienne Chatiliez. Comme elle, elle n'aime pas tellement les gens, et surtout pas les gens qui ne lui ressemblent pas.
Et alors, ça s'appelle La pièce rapportée, le film. Donc, qui est La pièce rapportée ?
Eh bien, cette pièce rapportée s'appelle Ava. C'est Anaïs Desmoustiers qui joue ce personnage. Ava, c'est une femme que Paul va rencontrer dans le métro, la première fois qu'il le prend de sa vie. Et tout de suite, cette travailleuse de la RATP voit dans ce garçon de bonne famille l'occasion de changer de vie.
Ava, qui se voyait déjà future chômeuse de la compagnie de transport parisien, opta pour le coup de folie et une vie pleine d'aventures. Ava décida d'être libre.
Alors très vite, Paul demande Ava en mariage, mais évidemment il y a un hic. La reine-mère Adélaïde n'est pas ravie de la nouvelle femme de son fils. En fait, elle ne digère vraiment pas du tout le fait que sa belle-fille ne soit pas issue du même milieu qu'elle.
Mais enfin quoi, tu ne veux pas que je sois heureux ?
Et moi, tu crois que j'avais envie de me marier avec ton père ? Tu n'as pas compris qu'on doit se marier entre nous ? Tous ces rallyes n'ont donc servi à rien. Ton abonnement à la piscine Molitor, 5000 euros par an. Ça fait cher hein, pour finir avec le métro.
Voilà, ça vous donne une idée du caractère délicieux de cette femme. Adélaïde, elle cherche à tout prix une excuse pour exclure Ava de sa famille. Alors d'abord, elle va demander à son médecin de lui faire passer un test ADN.
Imaginez si elle a les gènes de la pauvreté. Si les pauvres ne parviennent pas à s'en sortir sur plusieurs générations... C'est pas pour rien.
Alors comme elle ne manque pas d'idées, elle va ensuite engager un détective privé pour suivre à la trace sa belle-fille. Le problème, c'est que ce détective privé, il va lui aussi tomber amoureux de la jolie Ava. Et comme Ava, elle s'ennuie dans son couple, eh bien elle va pas être insensible non plus au charme de ce détective.
Ce léger flirt avait suffi à désennuyer Ava. Un antidote à sa neurasthénie de jeune femme riche qui n'avait rien dans sa vie.
Il y a une voix off qui est dans le film.
Exactement.
C'est pas vous qui l'avez fabriqué.
Non, c'est pour ça que je vous dis qu'on a l'impression d'être au théâtre. C'est qu'on est complice en fait de la voix off.
Il y a un récitant.
Exactement. Et alors évidemment, pour que l'histoire fonctionne, Ava, elle n'est pas au courant que l'homme avec qui elle flirte est chargé de la surveiller.
Et alors c'est encore plus compliqué que ça parce que vous m'avez dit, ce film, c'est l'adaptation de livres.
Oui, et même de deux livres, c'est rare. D'abord, le réalisateur, il s'est inspiré d'une nouvelle de Noël Renaud publiée dans les années 80. La nouvelle s'appelle « Il faut un héritier » et même si elle ne fait que 8 pages, elle constitue la trame principale du film. Et puis, plus surprenant encore, Antonin Perez-Chatko, il s'est aussi appuyé sur une nouvelle de Tchekhov.
Ah, je me disais aussi.
Oui, ça s'appelle.
Non, je plaisante.
Mais non, sinon vous n'avez pas vu le film.
Non, j'ai pas lu non plus la nouvelle, donc faut jamais se vanter.
Alors cette nouvelle-ci s'appelle Le roman d'une contrebasse et il va s'en servir pour ajouter encore plus de péripéties que je vous laisse découvrir à son film.
Donc je ne spoil rien si je dis que ce film vous a plu.
Ah oui, j'ai trouvé cette comédie très réussie pour plusieurs raisons. D'abord, la mécanique du vaudeville fonctionne très bien. Les péripéties absurdes s'enchaînent à merveille. Les dialogues sont vraiment percutants. Et comme je vous le disais, le spectateur, il est rendu complice de certains personnages grâce à la voix off qu'on a entendue. Et puis cette comédie, c'est aussi une petite satire politique et sociale. Le film, il se moque volontiers des travers du milieu bourgeois qu'il décrit. Et du coup, il y a une attention particulière qui est portée aux codes vestimentaires, aux coiffures qui sont liées aux milieux sociaux. C'est très savoureux. Bref, si vous n'avez pas le moral en ce moment, foncez au cinéma voir ce film. Il devrait vraiment vous redonner le sourire.
Merci beaucoup, Héloïse. Ça s'appelle La pièce rapportée. C'est déjà en salle et ça a l'air de vous tenter.
Ouais, bah, j'avais adoré La fille du 14 juillet. Je trouve qu'il y a toujours un ton très, très, très à part dans les films. Dans ce film-là, j'avais pas vu le suivant, donc j'ai très envie de le voir.
Et quand il y a des belles coiffures et des perruques, Jonathan Lambert n'est jamais très, très loin.
Et quand il y a Philippe Catherine aussi. Ouais.
Il en est resté à Pac-Man. C'est Jonathan Lambert. On va parler de jeux vidéo avec Caroline Speller. Culture Média continue, à tout de suite. Culture Média continue évidemment, on est avec Jonathan Lambert, la pièce s'appelle Rodolphe, c'est plus qu'une pièce, c'est un spectacle, il raconte sa vie. J'ai promis
un seul en scène
qu'on allait parler de jeux vidéo, on y est. Caroline Speller, bonjour.
Bonjour, bonjour Jonathan Lambert. Bonjour.
Aujourd'hui vous nous parlez d'un des jeux vidéo les plus connus au monde, Assassin's Creed, des centaines de millions de joueurs dans le monde.
Même ça je connais.
Moi aussi je connais, un jeu violent, un jeu pas vraiment réservé aux plus jeunes, mais qui fait le pari, et c'est ça l'info incroyable que vous donnez ce matin, qui fait le pari de passer de la baston à la pédagogie.
Alors, oui Philippe, Jonathan Philippe, je vous propose de faire un peu d'histoire ce matin. Découvrir de grandes périodes comme l'Antiquité, la Renaissance ou encore celle des Révolutions, eh bien avec le jeu vidéo, c'est possible. Et l'éditeur français Ubisoft en est un des plus bels exemples avec sa franchise historique d'action-aventure Assassin's Creed. Dans son dernier jeu sorti fin 2020, Assassin's Creed Valhalla nous transporte à la fin du 9e siècle dans la peau d'Eivor, un guerrier viking qui part à la conquête des terres des Anglo-Saxons. Votre but, c'est de faire prospérer votre clan viking avec des alliances politiques ou en pillant vos ennemis.
Eivor, tu as donné un nouveau foyer à ton peuple. Tu as donné aux vikings une raison de se battre. Tu as dompté ces royaumes brisés. Va, Eivor. Va gagner ta place au Valhalla.
Mais Ubisoft a décidé d'aller plus loin dans l'expérience et d'utiliser tout le contenu de Valhalla pour créer un jeu pédagogique, le Discovery Tour Viking Age.
Mais je veux évidemment rassurer les parents qui nous écoutent, je l'ai dit, Assassin's Creed c'est violent, c'est destiné aux adultes comme jeu.
Oui, vous avez tout à fait raison Philippe, mais Ubisoft a gommé toute la violence, les combats sanglants, l'histoire du personnage central, pour ne garder qu'un monde ouvert où on peut interagir. Car Discovery Tour Viking Age, c'est une expérience immersive et narrative, une nouvelle manière d'enseigner l'histoire pour tous. Thierry Noël, historien chez Ubisoft, nous explique ce que l'on peut découvrir des Vikings, une civilisation qu'on connaît peu finalement.
On se rend compte que ce ne sont pas seulement des pillards, mais ce sont aussi de grands explorateurs. On découvre tout le contexte commercial, on découvre cette société comme elle était organisée. On découvre des valeurs comme le prestige. Et on va aussi découvrir toute la partie anglo-saxonne, notamment ceux qui ont à subir ces invasions vikings. Et à travers l'expérience d'Alfred le Grand, comment on a créé l'Angleterre moderne en réaction à ces invasions vikings.
Mais si on le suit, ce prof d'histoire, on n'est pas loin d'avoir des jeux vidéo dans les classes.
Mais on y est déjà, Philippe, en fait. William Brou, professeur d'histoire-géographie pour des collégiens dans le Puy-de-Dôme, intègre les jeux vidéo dans ses cours. Pour les curieux, il y a même une chaîne YouTube, Histoire en jeu. Ce professeur nouvelle génération nous dit pourquoi et comment le jeu est devenu un outil pédagogique.
J'intègre juste un nouveau média devant les élèves, un nouveau type de document, au même titre que mes prédécesseurs ont intégré le cinéma, les séries, la bande dessinée, le roman historique dans les classes. Il peut à la fois nous permettre d'illustrer nos connaissances du passé, si le jeu est bien fait, et si le jeu est mal fait ou si le jeu a des biais scientifiques, il nous permet, par la déconstruction, de prêcher le faux pour aller voir le vrai en réalité.
Et c'est très tentant. Et comment on peut le découvrir ce jeu pédagogique Viking Age ?
Alors Philippe, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez le jeu Assassin's Creed Valhalla et vous accédez à ce contenu gratuitement, soit vous l'achetez sur PC au prix de 20 euros. En 2022, il sera aussi accessible sur les PlayStation et les Xbox. Ou si vous préférez profiter d'une sortie en famille, le jeu est proposé dans 150 microfolies en France. Alors qu'est-ce que ce sont des musées numériques supervisés par le ministère de la Culture. Et grâce à un grand écran, des tablettes tactiles, les enfants et leurs parents peuvent plonger au cœur du monde immersif et ludique de Discovery Tour Viking Age.
Viking Age, merci beaucoup Caroline Speller, ça a l'air passionnant, ça vous tente ?
Non mais c'est vrai que j'avais entendu une fois que sur Assassin's Creed, il y avait une recherche et une documentation incroyable pour fabriquer chaque nouvelle version.
L'Assassin's Creed qui se passe au moment de la Révolution française est absolument somptueux, il y a tout le Paris historique du Marais avec les vraies rues, les vrais monuments, c'est complètement dingue. Et sans les parcs-mètres. Merci Caroline Speller. Vous restez avec nous, on marque une pause et c'est la dernière ligne droite de Culture Média tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jonathan Lambert, il signe un seul en scène, un spectacle, il s'appelle Rodolphe. C'est à la Piccola Scala à Paris les jeudis, vendredis et samedis. Dans la présentation, vous dites que vous avez 46 ans, c'est ça ? mais vous faites une comparaison. Vous dites c'est 6 ans
et demi.
J'avais
46 ans quand j'ai commencé à le jouer.
Ouais, donc c'est le texte que j'avais. Ouais. Donc en gros, vous dites ça correspond à 6 ans et demi en année chien, 9 mois pour un hamster, 3 semaines pour un fromage de chèvre. Je vais reprendre, je vais continuer, je vais filer votre métaphore fromagère. Vous sentez comment ? Est-ce que vous sentez bien fait, à point, coulant ou DLC dépassé ?
Moelleuse à cœur.
Ouais.
Le genre de truc qui s'étale comme de la merde sur du pain. J'en suis là. Ouais, je suis à mi-parcours, donc je suis un fromage de chèvre à qui arrive. C'est maintenant qu'il faut manger.
Voilà. Et je veux dire pourquoi je vous en parle, parce que vous avez joué dans la série Jeunes et Gaulerie dont on a parlé ici. Annie Surcel était venue, on a dit tout le bien qu'on pensait de cette série.
J'étais perçu comme un vieux comté. Hein, non.
Et justement, ça allait être ma question. D'abord, racontez votre rôle. Vous êtes une sorte de pigeon, vous êtes le nouveau mec de Prune, l'héroïne. Oui, vous êtes le pigeon. Bah, elle perd en Paris.
C'est-à-dire
comment,
que,
voilà, racontez comment elle vous rencontre.
En fait, c'est une fille qui fait du stand-up et ils ont une sorte de gage. Quand ça ne fait pas assez rire dans la salle, les autres imposent un gage. Et là, on lui demande d'aller rouler une pelle comme ça, un inconnu à la terrasse du café. Et ce premier venu, c'est moi. Et il se trouve qu'en fait, il y a une histoire d'amour qui va naître de cette rencontre improbable. Et sauf qu'il va y avoir beaucoup d'épreuves pour elle, puisque elle a 25 ans, moi j'ai 45, 46 ans, je ne sais plus. Et puis surtout, j'ai une fille. Donc l'idée de cette série, c'est quoi d'être belle-mère quand on a 25 ans et qu'on est plutôt irresponsable.
On arrive à notre sujet, la raison pour laquelle j'avais filé la métaphore fromagère. Vous dites qu'en tournant cette série, vous êtes rendu compte que vous étiez vieux, ce que vous n'imaginiez pas du tout. Bah, moi, je vois comme un jeune, pardon de vous dire ça, mais...
Bah, ouais, ce qui veut dire que vous êtes plus vieux que moi.
Bien sûr, et puis j'ai le souvenir de vous comme un dingo.
Mais ouais, non, mais... C'est-à-dire qu'on est toujours le vieux de quelqu'un, on est toujours aussi le jeune d'un autre. Donc,
comment c'était sur le tournage ?
Sur le tournage, comme il y avait Paul Mirabel, Nordine Ganso, Marie Papillon, voilà, c'est une génération qui n'est pas forcément la mienne. Et il y avait de temps en temps des vannes que je lançais et ils n'avaient pas la ref et inversement. Donc c'est là où je me suis dit, ah ouais, dis donc, tu deviens vintage.
Voilà, mais déjà, vous dites la ref, autre actualité, autre activité, vous tournez des vidéos autour de l'art contemporain. Ça s'appelle 5-17. Raconter le concept.
5 minutes 17 parce que c'est pour une durée éponyme et c'était une façon de vulgariser l'art contemporain, parce que je trouve que les programmes souvent sont un peu scolaires et d'aborder le truc de manière un peu de désacraliser le propos et de s'amuser avec.
Voilà.
Mais
et
tout en étant en faisant découvrir avec un contenu assez solide. Quoi,
voilà, c'est très très drôle, vous parlez de Man Ray, de Jean-Michel Othoniel, de Cartier-Bresson, de l'artiste contemporain Xavier Veillant, avec de l'humour, et vous travaillez en collaboration avec Emmanuel Perrotin.
C'est ça,
jeune galeriste français qui monte, il est connu international. Enfin, je l'ai connu, il était jeune.
Vous avez fait sa première télé, je crois.
Exactement, la première télé dans Nulle part ailleurs avec moi. Comment s'est fait la rencontre avec Perrotin ?
En fait, je le connais depuis longtemps parce que j'ai une passion pour l'art, donc je traînais un peu dans toutes les galeries de Paris. Et puis j'ai su que lui, il a toujours aimé justement ce côté un petit peu communication, et notamment sur le digital. Et quand le confinement est arrivé, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute Emmanuel, plus personne va pouvoir aller dans les musées, plus personne va pouvoir aller dans les galeries. Voilà, on va manquer de culture et c'est peut-être le moment qu'il faut pour lancer un programme où on donne cet accès-là.
Et il a dit oui tout de suite.
Il a dit oui tout de suite.
Question média, parce que l'émission s'appelle Culture Média, même si vous êtes dans la partie culture, vous avez longtemps développé au personnage le samedi soir chez Laurent Ruquier, vous avez souvent croisé Éric Zemmour, et là vous avez fait des révélations sur lui, sur TMC, Zemmour fumait des joints.
Ça ne s'appelle pas des révélations, c'est des vannes. Je suis parfois, c'est du second degré.
Je me suis dit, mais ce n'est pas possible.
Non, parce que j'essayais de donner une image en off d'un Zemmour qui serait dans sa loge, genre en survêt, qui fume des védos avec ses potes. Non, évidemment.
Mais blague à part, vous en gardez quel souvenir ?
Honnêtement, pas beaucoup de souvenirs, parce que vous savez, c'est une émission, enfin vous connaissez les médias mieux que moi. Moi j'arrivais, on se retrouvait juste avant l'émission, on se disait bonsoir. D'ailleurs c'est Laurent qui me disait tu fais qui ce soir ? J'avais pas tellement plus de rapport et de dialogue avec Laurent, je lui disais le nom de l'invité, ok, bonne émission, à tout à l'heure.
Et chacun est dans sa loge. 10h54, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Chaque jour, des stars viennent rencontrer notre invité, et ce matin, Jonathan Lambert, c'est l'historien Franck Ferrand qui s'est, pléonasme, penché sur votre histoire.
C'est le 24 juin de l'an de grâce 1973 que naît Rodolphe Jonathan Lambert, et on apprend donc que le titre de son spectacle, Rodolphe, est le prénom que son père lui a légué, comme Louis chez les Bourbons. Oh, j'ai chaud. Cette multitude de prénoms à la chaîne, Rodolphe Jonathan, le prédestinait à devenir une star comme Émile Louis ou Guy Georges. D'où cet attrait pour le célébrissime personnage de Damien Bézé, rôle d'ailleurs repris depuis peu à la télévision par Nicolas Hulot. Après, un Doug de communication dont j'ose à peine le dire une fac publique. Jonathan Lambert fait les cours Florent et il commence à travailler pour la boîte de prod d'Arthur.
Oh, salut Jonathan, je vais te dire merde pour ton spectacle. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, quand on dit merde avant un spectacle, c'est pour dire bonne chance. Et moi, en général, on me disait merde après mon spectacle. Et après avoir bossé avec Jonathan, il est parti sur Énergie avec Payet, Manu Payet, Manos, dans Manos, de tous les Manos. Ouais, on faisait le 6-9 ensemble et avec nous tous les matins, on avait Bruno Guillon, Philippe Lelièvre et surtout des sacrés cernes parce que 6h, ça pique. Alors attention, parce que moi, j'ai des doses de ouf sur Jonathan, d'accord ? Mais comme il a aussi des doses sur moi, je vais rien dire. Non, ce qui est super, c'est qu'après, le mec est monté en grade de ouf. Il est carrément parti à la télé
avec Laurent Ruquier dans Les Pas Couchés. Bon, en tout cas, Jonathan, par rapport à votre nouveau spectacle, Rodolphe, je voudrais vous dire que ce n'est pas si vieux, 48 ans. Ce n'est pas si vieux comparé à Philippe Vandel. 48 ans, c'est le bon âge pour se trouver un CE2 pour devenir première dame. À la télé, vous avez aussi bossé avec
Yann Barthès dans Quotidien. Ouh là là. L'émission où l'on porte du The Couples, des baskets Veja et accessoirement une carte de presse. C'était super d'avoir Jonathan avec nous. Il pouvait jouer le rôle du grand frère auprès de notre jeune équipe. Si on avait su qu'il s'appelait Rodolphe, il aurait même pu jouer le rôle du grand-père.
Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray. Merci, Jonathan Lambert, d'avoir été avec nous.
Merci
cher
à vous.
Rodolphe, nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Nous serons avec le réalisateur Guillaume Dasquier pour une enquête exclusive. Il était au Yémen pendant des semaines, des mois, l'un des pays les plus dangereux du monde. Ce sera sur M6 dimanche, on en parle demain. Et puis l'ex-chanteuse du groupe Brigitte, désormais réalisatrice, elle s'appelle Aurélie Saada. Elle parle de son nouveau film Rose avec Françoise Fabian. Juste après le flash, elles sont déjà avec nous. Mélanie Gomez, Julia Vignali, bien fait pour vous. Le programme du jour.
Eh bien, on va recevoir un influenceur culinaire et sportif. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Big Will. Il pèse quand même 750 000 followers sur Instagram. Donc voilà, et il va nous apprendre comment.
J'ai cru que vous
alliez
dire kilos. Ouais.
Oui, non. Voilà. Il va nous apprendre qu'on peut finalement perdre du poids, être en forme, en bonne santé, tout en gardant le plaisir. Il y aura même quelques recettes de pizza, de burgers, de tacos. Ça va dégouliner de fromage, mais on sera en pleine forme.
Oui, et puis après, on se posera la question de savoir si on est hypersensible ou pas. Et on recevra Fabrice Midal, qui va nous expliquer qu'on peut en faire un atout.
Oui, et parfois, c'est très gênant. Merci beaucoup. À demain. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Salut. Ciao.